La droite française n'avait pas prévu l'énormité du contre-coup produit par le 6 février. J'étais à ce moment-là, je me rappelle, professeur à Lille, et dès que nous avons vu dans les journaux et que j'avais entendu à la radio ce qui s'était passé, spontanément, avec quelques camarades, on s'était porté le soir du 7 février sur la place centrale de Lille. Et ça a été extraordinaire de voir la foule qui était là. Il n'y avait pas de mot d'ordre, on n'avait pas encore reçu des mots d'ordre. D'ailleurs, je n'appartenais à aucune organisation. Mais spontanément, comme ça, on est allé pour voir. Et bien, nous étions des milliers de gens et le bruit tout de suite était « le fascisme ne passera pas », etc. Ben, ce qui se passait à Lille se passait à travers toute la France. Il faudrait que vous rendiez bien compte, à la distance où nous sommes, de ce qui se passait dans la mentalité française. La République, elle est attaquée, quoi, elle est menacée. Ben, ce mot de République, depuis 1875, il est un peu usé, vous savez. Et puis il y avait tellement de malfaçons, il y avait tellement d'utilisations pénibles de la République, qu'on pouvait croire que les gens fussent dépris de ce vocable, et bien pas du tout. Dès qu'on a vu que le régime était menacé, que la vieille République était menacée, alors il y a eu une espèce de mouvement profond, un élan. Même à l'égard de ceux qui nous avaient déçus, même quand on se disait « cette République n'a pas répondu à nos espérances », c'était tout de même la République. Et la République, c'est précisément le régime de l'espérance, parce qu'on peut espérer changer avec le suffrage universel. Alors c'est devenu très grave, et même il s'est produit tout de suite quelque chose qui alertait beaucoup la droite, à savoir qu'elle était contente de la désunion de la gauche. Vous savez que depuis 1920, le Parti Socialiste est coupé en deux, qu'en décembre 1920, on avait vu apparaître en France les communistes, que la CGT avait été accompagnée en 1922 d'une CGTU qui était communiste, et que les rapports entre les communistes et les socialistes étaient souvent tendus. Et bien voilà que dès le 12 février, une manifestation unitaire s'était produite. Elle ne l'était pas au départ, hein. Pas au départ, les socialistes et les communistes avaient donné la mode à leurs hommes de faire des manifestations séparées. Mais ils devaient se réunir, si je me rappelle bien, Place de la Nation. Et bien, Place de la Nation, les deux cortèges se sont réunis au point que, il y a eu fraternisation, et même embrassade, il n'était plus question de communistes et de socialistes, des questions de gens qui voulaient défendre la République. Et vous le savez sans doute, c'est pas la peine que je vous le rappelle, il y a eu le comité de vigilance de l'antifascisme, il y avait presque partout et spontanément des organisations qui se regroupaient pour la défense de la République, si bien qu'un mouvement profond allait se dessiner qui allait donner naissance à ce qu'on appellera dès 1935 le Front Populaire. Pour être tout à fait clair, il faut que je dise aussi que ce Front Populaire n'était guère facile, n'était guère possible plutôt, qu'avec le consentement des Russes. Staline était en train de se mordre les doigts de ce qu'il avait fait en 1933 en Allemagne. Staline était obsédé par la social-démocratie allemande. C'est vrai que cette social-démocratie allemande, avec Noske en 1919, avait contribué à l'écrasement des spartakistes et à l'assassinat, vous le savez bien, de Liebknecht et de Rosa Luxembourg. Alors, Staline avait considéré que le véritable ennemi des communistes allemands, c'était cette social-démocratie au pouvoir. Il avait même donné des ordres d'unir les voix socialistes aux voix nazies contre ces gens qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire des socialistes. Et bien le résultat, c'est que ces troupes avaient été proprement dévorées, les troupes communistes. Un grand nombre étaient passés aux communistes, étaient passés aux nazis, et on avait vu le triomphe d'Hitler, auquel avait contribué, et avait été comment sont contribués Staline. Alors, il ne voulait pas faire la même bêtise en France, et au lieu de donner ses mots d'ordre impérieux de lutte contre le pouvoir, même d'un pouvoir demi-socialiste, il avait dit « unissez-vous avec tous ceux qui représentent un barrage au fascisme ». Ça y était. Et pour la droite, c'était vraiment inattendu. Hein. Ils croyaient qu'ils emporteraient la République assez facilement. On s'apercevait qu'en réalité, il y avait tout de même un mouvement populaire profond et qu'il fallait essayer autre chose. Alors quoi autre chose? Eh bien, on se tournait vers des sauveurs. Et je voudrais vous citer tout de suite une phrase de Vladimir d'Ormesson, un académicien, un personnage considérable, les d'Ormesson, une grande famille, qui avait écrit ceci, dans le Figaro naturellement, « Un bloc des Français autour du seul homme capable de réaliser l'union des forces saines de la nation, le maréchal Pétain, c'est cela seul qui peut nous sauver. » C'était rien, cette affirmation d'Ormesson, auprès de ce que je vais vous expliquer maintenant, et qui est trop peu connu, qui est la campagne de Gustave Hervé. Qui était Gustave Hervé? Ben, c'était un homme qui s'était fait connaître dans les années 1903-1905 par un antimilitarisme fougueux. Il était socialiste, et Jaurès avait été obligé plusieurs fois de le rappeler à l'ordre en disant « vous allez beaucoup trop loin ». L'idée de la défense nationale est une idée proprement socialiste, comme l'idée française. Vous dites que les socialistes n'ont pas à défendre le sol national, au contraire, disait Jaurès, les socialistes français sont des Français, pas, et qu'eux aussi sont des Français, d'autre part parce que sur ce sol de la France a germé l'idée républicaine. Bon. Alors, il s'était, le Hervé, 1913 à peu près. C'était beaucoup calmé. Et en 1914, au moment de la guerre, il avait changé le titre de son journal, qui s'appelait La Guerre sociale, et il avait appelé La Victoire. Ce journal La Victoire ne se fait pas remarquer particulièrement pendant la guerre, mais au lendemain de la guerre, il prend des positions de plus en plus conservatrices. Et même maintenant, nous sommes en 1935, devant ce Front populaire qui est en train de naître, Gustave Hervé prend l'initiative d'une campagne pour Pétain au pouvoir. Il va réunir ses articles dans un petit volume qui s'appellera « C'est Pétain qu'il nous faut ». Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'écho que ce mot gardait encore dans les consciences françaises. En 1886, il y avait un certain général Boulanger, qui s'était fait appeler lui-même le général Revanche, qui donnait toutes les espérances de césarisme. Et alors, il y avait une chanson populaire sur lui, « C'est Boulange, 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 c'est Boulanger qu'il nous faut ». Cet écho de « C'est Boulanger qu'il nous faut » passait dans la formule d'Hervé « C'est Pétain qu'il nous faut ». Mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est ce qu'indiquait M. Gustave Hervé sur les projets qu'il signait pour une dictature, il disait bien, une dictature de Pétain. Il appelait ça « dictature de salut public », le sauveur que la France attend. Écoutez bien, il saura balayer le régime parlementaire, c'est clair, hein, Pétain est appelé pour balayer le régime parlementaire. Et il y aura d'abord, il énumérait ça à Hervé, clairement, d'abord une censure de la presse, puis une suspension de tout droit de réunion, de manifestation et de grève. Il a demandé la suppression du droit de grève. Il expurgera, et là il connaissait les idées du maréchal, hein, que tout le monde avait connu depuis ses discours de 1934, il expurgera le corps enseignant de tout membre qui, dans son enseignement ou hors de l'école, vous entendez bien, ou hors de l'école, pourrait faire douter de son esprit de discipline. Le même Hervé célébrait le redressement italien, mais il ne s'en tenait pas là. Il écrivait ceci. Il y a aussi le redressement encore plus merveilleux de l'Allemagne, où toutes les élites ont soutenu la croisade de Hitler et l'héroïsme des militants nazis. Je vous demande de garder en mémoire ce que je viens de vous dire maintenant sur l'héroïsme des militants nazis et sur cet enthousiasme à l'égard de l'Allemagne qu'on retrouvera mitigé, mais tout de même présent, à Vichy. Les élections arrivent. Ce sont les élections régulières de mai 1936. Et les renseignements généraux des préfets indiquent qu'il y aura certainement une poussée, encore plus nette qu'en 1932, une poussée à gauche. Il y a l'union des socialistes et des communistes, et les radicaux même ont adhéré, ils ont promis de soutenir un gouvernement de coalition républicaine. Ces élections ne comportent pas un véritable raz-de-marée, mais tout de même, l'inquiétude est grande entre les deux tours, et pour la première fois de sa vie, le maréchal Pétain va accepter une interview. Il a toujours refusé de répondre aux journalistes. Et voilà que le quotidien Le Journal, qui est un des quatre grands quotidiens de Paris, obtient de lui, le 30 avril 1936, c'est-à-dire entre les deux tours de scrutin, une déclaration. Maréchal Pétain a accepté de parler. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a à côté de nous, à côté de la France, les nations qui savent d'où elles vont. Tandis que nous, disait le maréchal, nous doutons. Nous sommes comme des marins sans pilote, et sans gouvernail. La France est sans pilote et sans gouvernail parce qu'il n'y a pas d'autorité au pouvoir, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'extrêmement dangereux qui s'appelle Léon Blum, et c'est une façon de Pétain de se proposer déjà ce 30 avril 1936. En vain. Et vous savez qu'effectivement, pendant la victoire de la Front populaire n'est pas discutable, la majorité est là établie, et pendant tout le mois de mai 1936, c'est une grève. Une énormité de grève, comme on n'en avait jamais connu en France. 2 millions de grévistes en même temps, et pour la première fois, une occupation, des occupations d'usines. Faites bien attention, il ne s'agit pas du tout d'un mouvement révolutionnaire. Il y a une sorte d'extrême gauche, trotskiste, c'est entre guillemets, qui dira tout est possible. Non, tout n'était certainement pas possible, parce que je l'ai vécu, cette classe ouvrière, je l'ai vu, j'ai vu ce que c'était. Et Simone Veil, je parle de la première, enfin celle qui est morte en 1942, Simone Veil disait, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement de joie et de fierté. De fierté, parce qu'il va y avoir maintenant un gouvernement et une police qui ne sera plus au service du patronat. Parce que pour la première fois, nous qui avons l'habitude de courber les chines, on pourra se redresser. On pourra être heureux. Et on sait bien que le gouvernement qui va s'établir nous sera favorable. Et il demande quoi? Il demande une augmentation des salaires d'abord, il demande la journée, la semaine de 40 heures, et il demande des congés payés. Une atmosphère de fête, vous savez. Il n'y aura absolument pas de trouble. En ce sens, ce que je veux dire, il n'y aura pas de sang répandu. Il y aura des piquets de grève qui surveilleront très étroitement à l'intérieur des grands magasins pour qu'il n'y ait aucun pillage, et à l'intérieur des usines pour qu'il n'y ait aucun sabotage. Tout se passe dans l'ordre. Néanmoins, c'est une terreur pour le patronat de penser qu'il y a eu pour la première fois une occupation des lieux de travail. Et on verra se précipiter à Confédération générale du patronat français auprès de M. Blum, avant même qu'il ne prenne le pouvoir, pour le supplier de les mettre en rapport avec un interlocuteur valable. Qui ? Mais M. Jouot. Jouot qui est le président, qui est le directeur de la CGT. Jusqu'à présent, le patronat dit on ne connaît pas ça, nous ne connaissons que des employés qui sont là, des ouvriers qui sont là, mais ils sont représentés par personne. Si, si, maintenant le patronat qui a tellement peur dit, mais nous voulons une conversation avec M. Jouot, parce que M. Jouot peut peut-être parvenir à convaincre ces gens de quitter leur lieu de travail. C'est ce qui va se passer, vous savez, ce sont les accords Matignon. Il va y avoir un incident assez rapide, puisque Blum a pris le pouvoir le 7 juin, un incident assez rapide entre Blum et Pétain. Un incident sur lequel je crois devoir vous donner des explications précises. Un incident va se produire le 21 juin 1936 entre Pétain et le président du Conseil, qui est ce socialiste juif, Léon Blum. Je vous fais remarquer d'abord la date, 21 juin. C'est, paraît-il, une célébration de la victoire de Verdun. Alors peut-être vous rappelez-vous que la victoire de Verdun n'a été remportée qu'au bout d'un certain nombre de mois, alors que le maréchal Pétain, qui était à ce moment-là le général Pétain, n'avait commandé que 2 mois sur le front de Verdun. Mais enfin, la légende s'était établie que c'était lui le sauveur de Verdun. Alors pour que vous compreniez bien l'intérêt des paroles qu'il va prononcer, il faudrait que je vous rapporte d'autres paroles qu'il avait écrites précédemment, peu de temps auparavant, cette année précédente, c'était le 1er mars 35, dans un article de la Revue des Deux Mondes. Pourquoi en Allemagne, ces prétentions militaires toujours accrues? Pourquoi et contre qui cette fièvre de réarmement? L'Allemagne entend laisser peser une menace permanente sur l'Europe. Elle fonde sa politique sur cette menace. Très juste et très bien vu. On peut dire qu'il regardait les choses telles qu'elles étaient du côté de Hitler. Alors comment, après les phrases que vous venez d'entendre, pouvez-vous expliquer les phrases suivantes qui étaient dans l'allocution qu'il avait préparée et qu'il a soumise, il le fallait, au président du Conseil, pour le 21 juin 36? On ne voit pas, disait le maréchal Pétain maintenant, on ne voit pas pour quelle raison deux peuples d'une grande culture ne découvriraient pas le chemin d'une entente, les mains ne pourraient-elles pas se tendre par-dessus les ponts verrouillés? Ah ça, c'est assez singulier. Il y a un an, il disait qu'il y avait un danger hitlérien, qu'il y avait une menace permanente d'agression, puis tout à coup, il parle de mains tendues par-dessus les ponts verrouillés. Ça ne rappelle pas ce que nous avions entendu sur la plume de Gustave Hervé, qui célébrait la victoire des nazis et la grandeur de leur dévouement. Blum, lisant ce document, il dit « c'est pas possible ». On ne peut pas, au moment où l'Allemagne est si menaçante, et ça, pas ce qui se passe en Allemagne, au lendemain surtout de ce 7 mars 36 dont je vais vous parler maintenant, on ne peut pas laisser une parole officielle prononcée comme celle-là. Le maréchal verra son texte censuré, ce qui lui paraîtra une indignité. C'est incroyable qu'un président du Conseil et un juif se permettent de censurer mes paroles. Alors il se vengera pour le 14 juillet, lorsqu'il doit assister, lui, le généralissime, pas le maréchal Pétain, président permanent du Conseil supérieur de la guerre, assister naturellement au défilé des troupes du 14 juillet. Eh bien, il ne veut pas y venir parce qu'il serait à côté de ce juif intolérable, de ce socialiste qui s'appelle Blum. Le maréchal Pétain ne sera pas présent, alors qu'il est toujours, au défilé du 14 juillet. Le 18 avril 1937, il va écrire à Doumergue, avec lequel il est resté en rapport, une phrase bien intéressante, que voici. Pourrons-nous rétablir l'ordre sans effusion de sang? Rétablir l'ordre? Le 18 avril 1937, il n'y a aucun désordre. Tout est tranquille en France, il n'y a plus de grève. Il y a l'exposition, la fameuse exposition universelle qui a un peu tardé, qui a été en effet reportée, mais qui ouvre ses portes, tout marche bien. Cependant, pour un homme comme Pétain, c'est le désordre. Pourquoi c'est le désordre? Simplement parce qu'à la présidence du Conseil, il y a un socialiste et par surcroît un juif. Écoutez la fin de la phrase. Pourrons-nous rétablir l'ordre sans effusion de sang? Ce qui veut dire qu'il faut peut-être aller jusqu'à l'effusion de sang. Oh, espérons qu'on n'en arrivera pas là. Mais ça ne me paraît pas impossible, ça me paraît une conjecture qu'il faut tout de même envisager. Qu'on serait obligé d'avoir une effusion de sang pour rétablir l'ordre. Cette véhémence à l'égard de Léon Blum est la marque d'une grande ingratitude. Car je ne sais pas si vous savez, et on ignore beaucoup aujourd'hui, que Blum avait été vraiment très gentil et très indulgent à l'égard du maréchal Pétain. Blum avait comme ministre des Finances Auriol, vous savez bien qu'il sera futur président de la République, et qu'il n'était pas un socialiste bien véhément. Mais il faisait son devoir et il surveillait en particulier ce qu'on avait appelé les évasions de capitaux. Il se rappelait 1924 où le franc était tombé à cause des évasions de capitaux organisées par la Banque de France elle-même. Alors voilà qu'en faisant ces vérifications, Rieussen est aperçu que le maréchal Pétain, à la date du 25 janvier 1937, je répète, 25 janvier 1937, avait pris une assurance sur la vie, non pas une compagnie française, mais une compagnie anglaise, pour une prime de 3177 livres. Il était passible de poursuite. Et comme c'était le maréchal Pétain, Blum, qui avait vu le dossier, a dit « écrasant, enfin, n'en parlons pas ». Pétain a frôlé là une difficulté qui était gênante de la part du maréchal de France, qui négligeait la fortune française, enfin les assurances françaises, pour passer aux errances étrangères. Mais nous allons passer, nous, à autre chose maintenant pour un instant, et j'ai appelé votre attention particulière sur ce que j'ai à vous expliquer maintenant, parce que c'est directement impliqué avec la politique extérieure du maréchal. C'est la politique extérieure des partis dits nationaux. Ça s'appelait d'abord nationaliste, et puis maintenant, de plus en plus, il aimait le mot national, parce que les nationaux, c'était des gens véritablement français. Tandis qu'à la tête de la France, un juif, c'est-à-dire une espèce d'apatride, dont on avait d'ailleurs baptisé le nom, on avait dit, changé le nom, on avait dit, il s'appelle pas Blum, il s'appelle Finkelstein, je ne sais pas quoi. C'est pas vrai, il s'appelait Léon Blum, c'était un Alsacien. Alors ceux qui étaient les ennemis de Blum disaient, nous sommes les véritables Français, nous sommes les nationaux. Et comme le mot nationaliste paraissait compromis, on disait maintenant les nationaux. Alors quelle avait été, quelle était la politique précise des nationaux en matière extérieure? Je vous ai rappelé précédemment la politique de M. Barthou, qui disait, il y a une menace évidente contre nous. Par conséquent, il faut le bloc franco-anglais d'un côté et l'alliance militaire de la Russie d'autre part. Et voilà qu'en 1935, il s'était produit un événement qui va être grave pour ses conséquences, c'est-à-dire l'agression dirigée par l'Italie contre l'Éthiopie. L'Italie et l'Éthiopie étaient tous deux membres de la Société des Nations. Et il y avait un certain article 16 du pacte de la Société des Nations qui disait que lorsqu'un membre de la Société agresse un autre membre, il est passible de représailles, naturellement pas de représailles militaires, puisque la Société des Nations est là pour éviter les conflits, mais de représailles économiques. Or, c'était parfaitement vrai que l'Italie avait commis un crime, enfin une grande faute, en attaquant un petit peuple qui pouvait mal se défendre. Le Négus n'avait qu'une armée primitive, Mussolini avait une armée moderne, donc il avait le sentiment qu'il ne ferait qu'une bouchée de l'Éthiopie. Ça n'avait pas aussi été commode, si rapidement commode qu'il avait cru, mais enfin, il y a un problème posé. Les Anglais poussaient de grands cris. En disant, il y a l'article 16. Je ne suis pas sûr, vous savez, entre nous, enfin, je ne suis pas sûr que ça faisait raison juridique qui poussait l'Angleterre à une telle intransigeance. Je pense que, comme toujours, c'était des raisons économiques. À savoir que le Nil, vous le savez bien, il a deux sources. Hein. Et bien, il y a une source du Nil qui est en Éthiopie. Tant que cette source était en Éthiopie, c'est-à-dire sous la direction, sous le contrôle d'un petit négus sans importance, pas grave. Mais si une des sources du Nil passe sous le contrôle d'une puissance méditerranéenne, et envieuse et dangereuse, comme du point de vue maritime, comme l'Italie, ça change. Alors les Anglais étaient intraitables, ils disaient qu'il faut stopper cette guerre, et par le moyen des représailles. Les représailles économiques auraient pu être sérieuses. Il y en avait une en particulier qui était très grave et qui aurait pu amener la fin de la guerre. À ce moment-là, j'étais jeune, je ne me rendais pas compte d'avoir des réalités, mais maintenant, moi et tout le monde, vous allez comprendre, la représaille maximum, c'était embargo sur le pétrole. Si tous les membres de la Société des Nations décidait qu'on ne fournirait plus une goutte de pétrole à l'Italie, ben c'était fichu pour elle. Hein. On ne pourrait plus continuer à alimenter ses bateaux et ses tanks, enfin c'était fini. L'Angleterre se disait, on va arrêter, on va stopper la guerre par ce moyen, parce que certainement on obtiendra de la totalité de la Société des Nations l'embargo sur le pétrole. Qui va s'y opposer? Quelqu'un qui avait droit de veto? La France. Qui la France? C'est Laval. Laval, contrairement à la volonté anglaise, va dire, je mets un veto à l'idée de l'embargo sur le pétrole. Mussolini lui en sera profondément reconnaissant, et toute la droite française était ravie de Laval, qui était à son service depuis un certain temps. Et il faut savoir que c'est donc grâce à Laval que l'Italie pourra conquérir l'Éthiopie. Mais il faut savoir aussi que, du moment que les Anglais avaient pris une position hostile au Négus, l'Angleterre était mal vue de nos nationaux. Au point que, un écrivain oublié aujourd'hui, mais qui avait de la notoriété, qui écrivait bien du reste, Henri Béraud, va faire dans Candide ou Gringoire, excusez-moi, je ne me rappelle plus, un des deux grands hebdomadaires, un article fulgurant, faut-il réduire l'Angleterre en est-ce que nos nationaux, les nationalistes, par conséquent, la politique de nos nationaux, les nationalistes français, qui sont soi-disant les super-patriotes, nous brouillent avec l'Angleterre, qui à ce moment-là est indispensable pour notre sécurité, et cherchent à nous rapprocher d'une Italie, dont les buts de guerre sont déjà évidents, et qui dira plus tard, nous voulons s'enduire vers la France, la Tunisie, qui bien entendu, si possible la Tunisie, et quelques années plus tard, il parlera même de la Corse et de l'Ice. Et bien, les nationaux français font la politique de quelqu'un qui n'aime pas la France. De 7 mars 1936, tout n'a pas eu lieu. Il est déjà là, mais les élections n'ont pas eu lieu. De 7 mars 1936, tout à coup, Hitler envoie des bataillons au-delà du Rhin. Il faut savoir que depuis 1925, l'Allemagne, non par le fait d'un diktat, comme à Versailles, mais par le fait d'un traité librement consenti, l'Allemagne, en échange d'une évacuation plus rapide dans la rive gauche du Rhin, puisque à partir du traité de Versailles, il y a eu une occupation française, anglaise et belge de la rive gauche du Rhin, et que M. Briand, s'entretenant avec l'Allemand Stresemann, avait dit « Je sais que cette occupation vous est très désagréable, et bien nous allons peut-être l'écourter, on va retirer nos troupes, à la condition que vous engagiez, vous, Allemagne, à ne pas militariser cette rive gauche dont nous allons partir. Il n'y aura pas de soldats allemands, là, ça serait une espèce de zone neutre. » Et très loyalement, je crois, avec beaucoup de bonne volonté, Stresemann avait dit « C'est promis, c'est d'accord, 1925. » En 1936, le 7 mars 1936, déchirant un traité qui était librement consenti, c'est-à-dire reniant la parole de l'Allemagne, Hitler fait entrer des bataillons à travers le Rhin dans cette rive gauche du Rhin dite démilitarisée. C'était grave. C'était évidemment une insurrection, c'était quelque chose de très universel, déchiré, quoi. Pire que le traité de Versailles, traité de 1925. Si bien que le président du Conseil, c'est pas encore bleu, mais nous ne sommes pas encore au mois de juin, nous sommes au mois de mars, s'appelait Albert Sarrau, fait un discours véhément disant « Nous ne permettrons pas que Strasbourg soit sous le feu des canons ennemis. » Donc on a songé à une riposte. La question n'est pas de savoir si nous pouvions la faire, nous, cette riposte. Je crois que les Anglais y seraient opposés. Je ne suis même pas sûr, pour vous dire toute ma pensée, que si on avait envoyé quelques bataillons pour refouler les bataillons hitlériens, ça n'aurait pas été encore de l'eau à porter au moulin hitlérien en disant « Enfin, nous voulons occuper notre territoire, c'est notre territoire à nous. La France ne nous permet pas d'avoir des soldats sur notre propre sol. » Bon. Non, non, mais ce que j'appelle, ce sur quoi j'appelle très étroitement votre attention, c'est sur le comportement de la fameuse droite française, la droite nationaliste française. La France est visiblement menacée. Hein. Maintenant, il va y avoir des soldats allemands qui vont venir jusque sur la frontière, alors qu'ils étaient de l'autre côté du Rhin. Alors figurez-vous qu'immédiatement se constitue un groupe qui a le front, oui, l'audace, ça vient de s'intituler Comité de vigilance des jeunes Français mobilisables. J'ai l'impression que c'est une riposte au comité de vigilance des antifascistes. Comité de vigilance des jeunes Français mobilisables. Il faut que vous sachiez les noms des deux responsables. Il y en a un qui s'appelle Darquier de Pellepoix et qui se fera connaître au moment de Pétain. Vichy, je veux dire. Puis il y en a un autre qui est aujourd'hui académicien, comme ce gars-là dont je vous ai parlé, qui s'appelle M. Thierry Mouly. Ben, l'un et l'autre, qui sont les dirigeants de ce groupe, ce nouveau groupement, organisent une grande manifestation à Magic City, qui est, je crois, un des endroits de Paris où on réunit le plus facilement une population. Et là, ils sont 3000, et ces 3000 terminent leur manifestation vociférante en disant « Faire la guerre à Hitler, ce serait la guerre des Juifs !» Nous ne l'affrontons pas à l'état d'esprit. Est-ce que vous voulez réfléchir à l'état d'esprit qui aurait été celui de M. Poincaré, par exemple, si au printemps 1914, on avait vu des anarchistes ou des socialistes d'extrême gauche dire « Ah, M. Poincaré, vous voulez la guerre ?» Et on vous avertit qu'on ne la fera pas. Et ils auraient foutu, j'ai en prison tout de suite, enfin, arrêtez. Mais on ne se comporte pas avec des fils de famille comme... Alors on ne les supporte pas, ces jeunes gens qui disent en cas de guerre, on ne marchera pas. Arrête pas, ces jeunes gens qui disent en cas de guerre, on ne marchera pas. On les convoque. Et M. Sarrault leur dit paternellement, écoutez, vous êtes mis dans le bruit, pas, ça va nous conduire à des ennuis. Ils prendront peur, effectivement, et on n'en parlera plus. Il n'y aura plus de réunion du comité de vigilance. Mais il faut savoir que, premièrement, deuxièmement, le 15 mars existait, et que, deuxièmement, le 15 mars 1936, dans l'Action française, M. Maurras répétera les formules qui avaient été employées par Darquier de Pellepoix et par Thierry Mounier en disant, nous ne nous en pas de vous, c'est la formule des juifs, parce que se défendre, la France, la France qui se défendrait contre un Hitler qui n'aime pas les juifs, ça serait une guerre pour les juifs. Et troisièmement, maintenant, il y a l'affaire de la guerre d'Espagne. Dans l'affaire de la guerre d'Espagne, il faut que vous sachiez que la France était menacée. Elle était menacée dans son territoire même, puisque nous savions très bien qu'il y avait déjà une menace derrière les Pyrénées, il y a derrière les Alpes, Mussolini. Il y a une menace derrière le Rhin, et maintenant au-delà du Rhin, qui était Hitler. Et si tout à coup, on avait derrière les Pyrénées une nation, un régime, appuyé, tout le monde le savait, appuyé par les fascistes italiens et par les nazis, nous avions une troisième frontière à défendre. Par conséquent, la France était encerclée. C'est pourquoi Blum avait essayé, en vain, d'apporter quelques soutiens aux républicains espagnols. Mais j'appelle pour la troisième fois votre attention sur ce point, qu'on a essayé d'encercler l'Allemagne par un bloc franco-anglais avec la Russie, et que ce sont nos nationalistes français, les fameux super-patriotes français, qui sont maintenant favorables à l'encerclement de la France, en favorisant derrière les Pyrénées un régime dangereux pour nous. Reste maintenant la question des crédits de guerre, enfin, de défense nationale. C'est tout de même saisissant de penser que, ni en 1934, lorsque Pétain était ministre de la guerre, ni en 1935, quand il y avait le ministère Flandin puis le ministère Laval, personne n'avait songé à augmenter les crédits de guerre, alors qu'on savait bien ce qui se passait de l'autre côté du Rhin. Alors finalement, et on l'a oublié aujourd'hui, c'est le gouvernement du Front Populaire, c'est le gouvernement Blum qui va se préoccuper d'augmenter nos moyens de défense nationale. Et en octobre 1936, Blum va demander et obtenir de la Chambre 14 milliards. Chiffre pour l'époque considérable, 14 milliards pour augmenter nos crédits de défense nationale, quoi. Mais savez-vous quel est le résultat du côté des nationalistes, en fait, des patriotes français? Blum est un fauteur de guerre. Blum est un juif qui, en tant que juif, veut faire la guerre à l'Allemagne. Par conséquent, ces 14 milliards, c'est abominable. Il nous prépare la guerre. Et dans tout ça, quelle est la position du maréchal Pétain? Ben, il ne dit pas grand-chose, sinon que ce fameux 30 avril, avant les élections dont je vous ai parlé, lorsqu'il a donné son interview, il avait pris la position la plus précise contre le pacte franco-russe, contre l'appel à la puissance russe pour aider la puissance française, et qu'il avait déclaré ce jour-là, je déplore que le pacte ait été ratifié.